VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. On commence par la crise migratoire. 3324 migrants ont été secourus dimanche au large de la Libye au cours de 36 opérations de sauvetage. C'est ce qu'ont annoncé les gardes-côtes italiens. Les détails avec Nathalie Barge.
Les migrants étaient entassés dans 25 canots pneumatiques et un bateau en bois. Il n'y a pas eu de victimes, selon les gardes-côtes italiens. Des navires de la marine italienne ont pris part aux opérations de secours, ainsi que des bateaux de l'agence européenne Frontex et de l'opération antipasseur Sophia. Les associations Médecins sans frontières et Sea-Watch ont prêté main forte aux secouristes. Les migrants ont été transférés vers des ports du sud de l'Italie. Ces arrivées portent à plus de 66 000 le nombre de migrants parvenus en Italie ces 6 derniers mois, tandis que plus de 2 800 ont péri en Méditerranée, selon le HCR.
Centrafrique maintenant, un casque bleu sénégalais a été abattu à Bangui par des individus armés non identifiés. Cela s'est passé vendredi dernier, mais c'est aujourd'hui que la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, a annoncé la nouvelle. Jacques Aristide.
Le corps de la victime a été retrouvé à l'hôpital général de Bangui dans des circonstances non encore élucidées d'après la MINUSCA. Une enquête a été immédiatement ouverte. La force onusienne condamne à cet acte qu'elle qualifie d'ignoble et d'injustifié. Une source celle de la MINUSCA a indiqué que le soldat tué faisait partie du contingent sénégalais. Pour le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, porter atteinte à la vie d'un soldat de la paix peut être considéré comme un crime de guerre. Parfeonanga Nianga promet que tout sera mis en place pour traduire les auteurs de ce meurtre en justice. En avril dernier, un casque bleu marocain a été tué dans le sud-est de la Centrafrique dans une attaque attribuée à la guérilla ougandaise LRA. Ce nouveau meurtre intervient dans un contexte de regain de violence depuis l'élection du président dans Faustin Archange Touadéra en février dernier.
En RDC, ajournement de 24 heures de la réouverture à Lubumbashi du procès de 32 Bantous et Pygmées accusés de crimes contre l'humanité et de génocide lors de l'affrontement ayant opposé leur communauté au Katanga dans le sud-est du pays en 2013. La cour d'appel de Lubumbashi a constaté ce matin l'absence des accusés et des victimes et a décidé de renvoyer la reprise du procès à demain. On reste en RDC. Les États-Unis continuent de suivre de près l'évolution de la situation politique dans le pays. Washington promet de ne pas en rester aux simples sanctions américaines imposées contre le chef de la police de Kinshasa, le général Célestin Kanyama. Et il pourrait y avoir de nouvelles mesures si le président Joseph Kabila veut rester au pouvoir au terme de son dernier mandat. Écoutons à ce propos Steve Weissman, ancien responsable à la sous-commission des affaires africaines de la Chambre des représentants des États-Unis et auteur du livre « La politique américaine au Congo, Kinshasa ».
On attend un peu pour voir si Joseph Kabila va changer sa politique, si peut-être il voit que les pressions externes commencent à grandir. Il peut repenser sa politique de se maintenir au pouvoir. On ne l'accepte pas. Le département du Trésor des États-Unis a écrit limité à 2 mandats quand il essaie de continuer après les 2 mandats, et ça n'est pas acceptable. Si M. Kabila essaie de dire qu'un cours constitutionnel complètement dominé par lui, il a choisi les membres, dit que je peux rester, les États-Unis disent non, nous voulons que vous respectez la Constitution lui-même, pas l'opinion des gens que vous avez désignés.
Steve Weissman, auteur du livre « La politique américaine au Congo, Kinshasa ».
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Nigeria, 2 kamikazes présumés ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi dans 2 explosions alors qu'ils tentaient d'entrer dans une mosquée lors d'une prière du Ramadan dans la ville de Maïdougouri, fief historique du groupe islamiste Boko Haram. Par ailleurs, au cours du week-end, l'armée nigériane a affirmé qu'elle avait libéré 5000 otages du groupe djihadiste lors de plusieurs opérations dans le nord de l'État de Borno, près du lac Tchad. Des nouvelles non confirmées de sources indépendantes. Dans le centre du Mali, au moins 15 personnes tuées et 46 blessées ce week-end dans les affrontements entre les habitants de deux villages de la région de Mopti. Les violences ont opposé des paysans de Koussouma et Mounia, près de Djéné, après un litige sur des terres cultivables. On écoute le témoignage de Sekouba Traoré, secrétaire général de la commune rurale de Nema Badeya-Kafo, dans la région de Mopti.
Le dernier bilan, c'est 15 morts. La cause, c'est un litige foncé qui date des années 40. Il y a eu plusieurs jugements. Parce qu'ils avaient commencé par le premier instant à Djéné, qui a donné raison à Mouna. Les personnes n'étaient pas d'accord, ils ont interdit l'appel. Mopti a confirmé la décision. D'autres l'ont approuvé en cassation. Le litige porte sur un lieu qu'on appelle Mouna Tchentien. Maintenant, le Mouna Tchentien, on les a fait savoir que ça appartient à Mouna, mais les années Cosmo ont 69 dans l'endroit, ce qui n'a pas plu aux années Mouna. Le dernier jugement qui a eu le courant 2014, il y avait un juge qui était venu à Djéné de 2008 jusqu'en 2014. Personne ne cultivait l'endroit. Maintenant, l'année dernière, les années Cosma ont eu à cultiver ça, ce qui n'a pas plu aux années Mouna. Cette année, le vendredi soir, il a plu encore. Le lendemain matin, les années Cosma sont sortis pour venir cultiver l'endroit. Entre temps, comme l'endroit est à 100 mètres de Mouna, mais à 11 km de Cosma, les années Mouna sont sortis pour aller trouver celui de Cosma là-bas. Bon, maintenant, c'est là où il y a eu affrontement. Et malheureusement, on déplore, comme je viens de dire, 15 morts, 46 blessés.
Sekouba Traoré, secrétaire général de la commune rurale de Nema Badeya-Kafo dans la région de Mopti au Mali. Dossier Brexit, maintenant le vote des Britanniques jeudi pour le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pose une série de questions politiques, économiques et constitutionnelles. Pour les responsables européens, cette procédure de retrait doit être initiée le plus tôt possible, par crainte, disent certains experts, d'une possibilité de contamination d'autres États membres de l'UE. Pour analyse, Eric Manirakis a joint à Bruxelles l'auteur de Droit de l'Union européenne et professeur à l'Université libre de Bruxelles, Marianne Donny.
Le risque de contagion n'est évidemment pas sous-estimé, mais pas surestimé non plus. Pour le moment, il n'y a aucun parti au pouvoir dans les autres États membres qui envisagent d'organiser un référendum sur le maintien de son pays dans l'Union européenne. Il y a bien sûr des demandes, mais pour le moment, elles émanent uniquement de partis qui sont dans l'opposition. Mais le Royaume-Uni montre que parfois, les pressions venant de l'opposition peuvent conduire les gouvernements à ce genre de décisions. Donc, un risque de contagion, ce n'est pas totalement à exclure, mais ça me paraît quand même assez peu probable, d'autant plus que tout le monde semble maintenant prendre conscience que ce n'est pas si facile que ça de se retirer de l'Union européenne, que les questions sont très nombreuses.
Et quel type de relation entre les 27 et le Royaume-Uni?
Tout le monde semble d'accord pour dire qu'il ne faut pas rompre les ponts, personne n'y aurait intérêt, qu'il faut maintenir des relations économiques, qu'il faudrait sauvegarder le plus possible du marché intérieur. Du côté des 27, on ne veut pas donner l'idée qu'on pourrait se retirer et puis finalement avoir tous les avantages sans les inconvénients ou sans les contraintes. Donc les négociations vont sans doute être assez difficiles. Pour le moment, aucun des grands types d'accords qu'on connaît, que ce soit l'espace économique européen ou l'accord avec la Suisse ou l'accord avec la Turquie, ne conviendrait aux deux parties. Donc il va sans doute falloir inventer quelque chose qui soit fait sur mesure pour cette situation tout à fait spécifique du Royaume-Uni dont l'Union européenne a besoin, qui a besoin de l'Union européenne et qui d'un autre côté voudrait avoir moins de liberté des travailleurs. Mais c'est difficile d'imaginer que les autres pays lui accordent la libre circulation des travailleurs ou qu'ils puissent refuser la libre circulation des travailleurs plutôt et par exemple demander le libre accès au marché pour ses banques. Il va y avoir un donnant-donnant inévitablement.
Est-ce que ce référendum, c'était une erreur?
Clairement, c'était une grave erreur politique. David Cameron sait qu'il était un habitué des coups de poker qu'il avait gagné haut la main jusque-là. Et là, pour une fois, ben, il s'est brûlé les doigts et malheureusement, tout le monde avec lui.
Marianne Donny, professeure à l'Université libre de Bruxelles, en Belgique. Et pour terminer, la première dame des États-Unis, Michelle Obama, effectue une tournée pour promouvoir l'accès des filles à l'éducation. Elle s'est rendue au Cap-Vert, puis au Liberia, et ensuite, Madame Obama ira au Maroc et en Espagne. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.